Donc, l'enregistrement débute. Vas-y, Annick, avec les présences.
Oui, bonjour, je vais procéder aux présences. Donc, Monsieur Sartorois.
Présent.
Monsieur David Christopher.
Présent.
Monsieur Jean-Yves Turmel.
Présent.
Monsieur Luc Dion.
Présent.
Monsieur Yvon Dumont.
Présent.
Monsieur Yves Turgeon.
Présent.
Monsieur Martin Lacasse.
Présent.
Madame Guylaine Aubin.
Présente.
Monsieur Sébastien Bourget. Madame Manon Goulet.
Présente.
Monsieur Germain Caron.
Présent.
Monsieur Martin Gicoté.
Présent.
Monsieur Bernard Morin.
Présent.
Monsieur Denis Laflamme.
Présent.
Monsieur Éric Tessier.
Présent.
Monsieur Jacques Bruno.
Présent.
Monsieur Pascal Fournier.
Présent.
Monsieur Daniel Pouliot.
Présent.
Monsieur Gilles Breton.
Présent.
Et Monsieur Christian Lacasse.
Présent.
Or, vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour. Alors, on prendra une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour.
Soumis. Luc propose.
Luc.
Yves seconde.
Yves seconde. Oui, il y avait Germain qui lève la main.
J'aurais peut-être juste un ajout.
Oui.
Vas-y. C'est un 3D dans le variant.
C'est Henri 3D et...
Mon ajout à 9.15 en lien avec le projet coopération en loisirs. Dans le fond, personne désignée pour signature des documents.
C'est bon. Donc, les proposeurs et secondeurs sont toujours d'accord?
Oui.
Oui. Oui, c'est bon. Donc, on serait rendu au procès-verbal de la réunion du 16 septembre. Vous l'avez reçu. Pris connaissance, questions, commentaires ou adoption?
Martin J. propose.
Martin J. propose.
Yvon l'appuie. Yvon l'appuie.
Yvon. Yvon Dumont appuie. Le point 4, compte et recettes, même chose. Vous avez reçu les documents. Questions, commentaires ou propositions d'adoption?
David propose.
David propose.
Jean-Yves appuie.
Et Jean-Yves appuie. On est rendu déjà au point 5, rencontre parc industriel régional pour le dépôt. Alors, c'est toi qui les admets, Annick? Alors, Louis, je te laisse la parole pour la petite présentation. Et on va recevoir les autres personnes dès qu'ils seront disponibles. Vas-y, Louis.
Oui, bonjour. Dans le fond, ce soir, on vous présente là, le résultat du rapport sur le parc industriel régional. Donc, tout ça a commencé là, en janvier lorsque vous avez adopté une résolution pour pouvoir produire justement une étude pour évaluer la pertinence d'avoir un parc industriel régional sur le territoire de la MRC de Bellechasse. Dans le fond, tout ce rapport-là a été fait là, depuis le mois de janvier. Il y a eu des discussions aussi avec le comité d'aménagement pour pouvoir s'assurer que, dans le fond, le rapport respecte les objectifs et les conditions énumérées. Ce rapport-là vous a été envoyé, dans le fond, le 9 octobre. Puis aujourd'hui, on reçoit Mesdames Sandra Gilbert de Gilbert Urbanisme ainsi que Caroline Gagnon de LGP Stratégie Immobilière qui vont vous faire, dans le fond, une petite présentation d'une vingtaine de minutes qui porte, je vous dirais, principalement sur les constats de ce rapport sur le parc régional industriel ainsi que les principales recommandations. Hein, je ne sais pas. OK, ils sont en train de se connecter.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes à l'avance, c'est super. Probablement rare que ça arrive. Est-ce que Sandra est déjà arrivée?
Je n'aperçois pas Sandra. Ah, okay. Ah oui, OK, elle est là. Fait que je viens, dans le fond, de vous introduire. Fait que vous pouvez peut-être commencer avec votre PowerPoint, si vous l'avez à portée de main.
Oui, Louis, tu préférais que je le...
On parle d'une vingtaine de minutes. Donc, oui. On parle d'une vingtaine de minutes pour la présentation. Caroline, ça va?
Oui, bien, on va absolument. OK. On avait peut-être... Je pense que Sandra, on pourra peut-être passer vite sur quelques slides. Oui, je vous...
On va faire au plus vite, au mieux qu'on peut.
Oui. Un instant, je vous partage ça. Voilà. Okidou. Bon, mon ordi, il dit qu'il ne me répond pas. Ce n'est pas le temps. Ça ne va pas être là. OK. On tient quelque chose. Parfait. OK. Ben, à toi la parole, Sandra.
Moi, je ne le vois pas, par exemple. Ah,
non? Vous le voyez-vous?
Non, c'est beau. Il vient d'apparaître.
OK.
Il est un petit peu plus long. Donc, c'est ça. Je vais essayer d'aller rapidement au niveau de ma partie. En fait, c'est ça. Comme un peu Louis vous a expliqué cet après-midi, c'est une étude qui a débuté au début de cette année. Donc, les objectifs de la MRC par rapport à cette étude-là, avoir en main une caractérisation sommaire de l'offre actuelle, donc savoir l'existant, qu'est-ce qu'on retrouve sur le territoire actuellement. Être informé donc des nouvelles façons de faire au niveau du développement industriel au Québec. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est quoi les tendances? Identifier le type d'industrie susceptible de venir s'implanter sur le territoire. Donc, qui attirer sur le territoire? Déployer une offre industrielle adaptée aux besoins des entreprises et de celles que nous voudrons attirer, en fait. Donc, c'est quel type d'offre on doit leur offrir. S'inscrire en complémentarité, évidemment, et non en concurrence avec les parcs industriels avoisinants. Et puis, identifier les zones les plus propices pour le développement. Ce n'est pas toutes les zones qui le sont, donc c'est d'identifier celles qui le sont. Rapidement, plan de la présentation, je vais vous présenter l'inventaire sommaire donc des parcs et des zones industrielles. Ensuite, Caroline va vous présenter donc l'analyse du tissu industriel au niveau de la MRC, l'effet saillant et généralité des entrevues, puisqu'on a rencontré, en tous les cas, on a contacté, puisque ça s'est fait pendant la COVID, quelques employeurs sur le territoire. Quels sont les déclencheurs d'opportunités et le positionnement industriel? Quel est le succès de l'implantation d'un parc industriel régional et nos recommandations pour finir. Donc, rapidement, un inventaire sommaire des zones et des parcs industriels. Je vais vous envoyer quelques chiffres comme ça. Il faut savoir que cet inventaire-là, en tous les cas, les chiffres que je vous présente et qui sont dans le rapport ont été aussi tirés d'un inventaire qui a été fait par Développement économique de Bellechasse en 2019. On s'est aussi appuyé sur tout ce qui concerne le plan de zonage et la réglementation, le schéma d'aménagement. Donc, on est allé chercher d'autres outils. Donc, on a 60 zones industrielles réparties donc dans 17 municipalités sur 20 municipalités. Donc, Honfleur, Saint-Nazaire et... Et Saint-Malachie, donc et Saint-Gervais, pardon, qui n'en ont pas. Honfleur-Saint-Nazaire et Saint-Germain n'en ont pas. Il y a 6 parcs industriels. Il faut savoir que dans l'inventaire qui avait été fait en 2019, on parlait juste de zones industrielles, on ne parlait pas de parcs industriels. Mais dans la carte que je vais vous montrer tout à l'heure, dans la prochaine diapo, on a 6 parcs industriels, donc Saint-Anselme, Saint-Charles, Sainte-Claire, Saint-Damien, Saint-Léon et Saint-Malachie. La superficie totale au niveau des terrains qui pourraient accueillir des industries est d'à peu près 553 hectares et il reste des superficies disponibles, donc d'à peu près 170 hectares. La plus grande superficie se trouve à Saint-Henri, qui a aussi la plus grande valeur foncière. La plus petite, c'est Saint-Néré. La plus petite valeur foncière aussi, c'est Saint-Philémon, qui... elle a un taux d'occupation de 8% seulement. Et la valeur foncière globale, donc sur l'ensemble du territoire, est de 175 millions de dollars. Donc, visuellement, ce que ça représente au niveau de la carte, on va plutôt s'attarder sur ce qui concerne les ronds et les carrés jaune-orangés, puisque ce sont les ronds sont les parcs, les carrés sont les zones industrielles. Donc, d'un coup d'œil, on remarque quand même que les parcs et les zones industrielles de grande superficie se situent le long de la 277, donc de Saint-Henri, Saint-Anselme, Sainte-Claire et Saint-Malachie. On en retrouve également Saint-Damien. Ailleurs sur le territoire, on va retrouver davantage des petites zones ou des petits parcs industriels un peu éparpillés sur l'ensemble des municipalités. Donc, les constats qu'on a faits suite à cet inventaire-là, la MRC de Bellechasse est quand même un emplacement stratégique puisqu'on se retrouve à proximité de l'autoroute 20 et présence de routes importantes, donc la 73, la 277 et la 282. On a une présence des services, donc aqueduc et égout dans presque toutes les zones industrielles qu'on a identifiées. On a pu voir de par la carte que le développement se fait essentiellement le long de l'axe 277. On a remarqué également qu'on a un zonage assez parcellaire au niveau des zones industrielles, mais davantage dans les petites municipalités. Ce sont en fait des industries qui se sont développées depuis très longtemps et qui ont fait l'objet on va dire une zone, une entreprise. C'est pour ça qu'on va se retrouver dans certaines municipalités avec plusieurs zones. On va avoir 4-5 zones industrielles, mais elle va être occupée par une, voire deux industries à la fois. Certaines zones industrielles aussi pourraient être davantage identifiées comme des zones commerciales davantage parce qu'on va retrouver davantage du commerce lourd, très peu d'industries, voire pas du tout. Et il y a plusieurs zones aussi à l'extérieur des affectations urbaines qui sont en droits acquis. Puis, en fait, c'est des zones qui se sont encore une fois créées au fil des années qui ont été entourées, qui sont entourées par du zonage agricole, qui ne sont plus reconnues en tant que zones industrielles et qui demeurent malheureusement dérogatoires, donc qui sont amenées à disparaître avec le temps. Donc ça peut avoir une incidence sur les superficies disponibles dans la mesure où ces zones industrielles sont dérogatoires aujourd'hui. Au niveau d'autres constats, on a vu aussi qu'il y avait eu plusieurs demandes qui avaient été faites au niveau du dézonage du territoire agricole auprès de la CPTAQ. On a vu que le périmètre urbain de la Durantaille va s'agrandir donc pour accueillir du zonage industriel. Il faut savoir que le taux d'occupation est de 92%, donc c'était vraiment nécessaire. Plusieurs zones se situent au cœur de villages, cohabitent avec des secteurs résidentiels, donc ça peut créer des irritants. On le verra, on peut amener des mesures pour éviter ces irritants-là. On a aussi vu que plusieurs zones étaient enclavées, des zones industrielles enclavées entre une voie ferrée puis une zone résidentielle ou un cours d'eau. Donc, ça limite de beaucoup leur développement. Certaines municipalités offrent des incitatifs financiers donc pour attirer des industries sur leur territoire. C'est souvent des congés de taxes à ce moment-là. Le constat donc qu'on a fait, c'est qu'il y a quand même une superficie assez importante de terrains vacants, puisqu'on a 170 hectares de terrains vacants, mais on le verra un peu plus tard, qui dit vacant ne peut pas dire disponible pour la construction, puisqu'il y a des contraintes parfois naturelles ou anthropiques qui n'ont pas été faites dans le cadre de cette caractérisation-là, mais qu'il ne faut pas prendre pour acquis qu'il y a ces 170 hectares vacants. Et le dernier constat, c'est la présence de la voie ferrée et du gazoduc, donc, qui sont des facteurs quand même de développement très importants pour la MRC de Bellechasse. Donc là, je vais laisser la parole à Caroline.
Oui, merci Sandra, tu vas pouvoir respirer, reprends ton souffle.
Question pour vous, madame.
Oui.
Pourquoi vous avez oublié le 279 et la 132? On ne voit pas les routes 279, c'est la voie qui part de Saint-Damien jusqu'à la 20. Vous n'avez pas mentionné que…
Oui, vous avez raison.
Vous n'avez pas mentionné la 132 Est-Ouest qui part de Montmagny, qui va à Lévis, qui passe à Saint-Vallier, Saint-Michel, puis Beaumont. C'est deux routes principales, très peu.
Et c'est 282, non pas 282.
Est-ce que j'ai suspendu?
As-tu entendu le dernier commentaire? Je pense qu'il y a une erreur au niveau du numéro de la route.
Oui. Mais c'est important. Oui,
ouais, OK.
OK, c'est pas. Je comprends. Parfait. On va
c'est noté?
Oui.
Parfait. Merci pour la précision.
Bienvenue.
Alors, allons-y avec l'analyse du tissu industriel. Donc, on a sur le territoire un total de 119 entreprises et un total de 6000 emplois. Rapidement, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une petite animation ici. Excusez-moi. OK. Donc, on retrouve, en fait, 50 % des entreprises se retrouvent au sein de ces quatre municipalités-là. Et ça représente aussi 84 % des emplois. Donc, on voit que c'est quand même très concentré. Vous avez aussi quatre secteurs dominants, pas quatre, excusez, six secteurs dominants. Donc, l'agroalimentaire, la plasturgie, la transformation de produits métalliques, fabrication de machines, la fabrication de meubles et tout ce qui entoure habitat, construction, ainsi que autres activités de fabrication. Ces six secteurs-là ensemble représentent 90 % des entreprises et 97 % des emplois sur le territoire. Comme vous voyez, là, je vous fais, pour qu'on accélère, il y a quand même les données pour chaque groupe qui démontrent un petit peu l'importance relative de chacun, mais je passe vite là-dessus pour rentrer dans le temps qui nous est imparti. On a aussi réalisé des entrevues avec plusieurs entreprises industrielles. Ici, c'est un petit peu les commentaires qu'on a reçus puis l'analyse qu'on a faite de ces entrevues-là. Alors, d'abord, on a senti chez les entrepreneurs qu'on a rencontré un très fort sentiment d'appartenance au territoire. Il y a un esprit aussi entrepreneurial qui est vraiment bien développé dans la MRC de Bellechasse. On constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont émergé parce que des grands donneurs d'ordre ou des entreprises plus matures qui ont modifié leur modèle d'affaires pour laisser place à plus de sous-traitance. Et ça a créé l'émergence de plusieurs entreprises sur le territoire. On ne voit pas ça partout. C'est vraiment une particularité de la MRC de Bellechasse. Il y a de l'expertise nichée, diversifiée. On a vu aussi de la capacité d'innovation de vos entreprises, des produits aussi qui peuvent être très ciblés. Autre élément important, vous avez plusieurs grands donneurs d'ordre, ce qu'on appelle un peu dans notre jargon des têtes de chaîne de valeur, c'est-à-dire que c'est des grandes entreprises qui génèrent tout autour tout un réseau de PME. C'est ça fort intéressant, vous en avez plusieurs. Au départ, des entreprises qui se disent qu'il y avait des marchés très locaux, mais qui ont été propulsées. Donc, vous avez plusieurs entreprises qui exportent sur les marchés nationaux, internationaux, très intéressant aussi. Et on nous a mentionné que l'approvisionnement se fait par des grossistes qui sont généralement situés à l'extérieur du pays. Au niveau immobilier, majorité des entreprises sont propriétaires des bâtiments. Le prix locatif au pied carré sur votre territoire, ça varie d'environ 7 à 10 $ du pied carré. Donc, on observe plus dans la région de Lévis. Donc, vous positionnez un petit peu moins cher. Investissement réalisé au cours des dernières années, beaucoup plus en matière de modernisation d'équipements qu'en matière d'immobilier. Les besoins, ce qu'on nous dit dans les entreprises, ne sont pas à la relocalisation, mais vraiment plus pour des besoins d'agrandissement ou carrément des nouvelles constructions pour des projets d'expansion. Au niveau de la main-d'œuvre, c'est pas une surprise. Il y a des enjeux pour le recrutement d'emplois spécialisés. Les plus petites PME qui ont des emplois non spécialisés nous ont dit qu'il y avait quand même de la difficulté à recruter, mais dans leur cas, c'est que vous avez sur votre territoire quand même des grandes entreprises, des entreprises matures qui sont en mesure d'offrir des salaires plus élevés. Donc, parfois, c'est un petit peu difficile pour la PME. Plusieurs initiatives de rétention de main-d'œuvre ont été faites dans les entreprises. Beaucoup aussi se disent très autonomes par rapport à la formation et on a recours à l'embauche de la main-d'œuvre immigrante de plus en plus. Au niveau des services et supports offerts aux entreprises, on nous a mentionné que des projets collectifs pourraient être initiés, donc régionalement, pour supporter des entreprises dans certains enjeux, comme la main-d'œuvre et la mutualisation de certains équipements et ressources. L'offre de services aussi de proximité se concentre beaucoup autour de l'axe de la 277. Et ça, c'est important pour l'attraction de main-d'œuvre et des entreprises parce qu'aujourd'hui, quand on développe des parcs industriels, pour être attractif, on ne peut pas le planter au milieu de nulle part avec rien autour. Les employés ont besoin d'un petit peu de service. Si tu veux aller manger au restaurant, si tu as quelques courses, tu peux vouloir te promener, manger dehors. Donc, ça, c'est important. Et on nous a mentionné aussi, aux yeux des industriels à qui on a parlé, à leurs yeux, il y avait vraiment peut-être un frein à l'attraction de main-d'œuvre et de nouvelles entreprises parce qu'il n'y avait pas beaucoup de promotion de la MRC à l'extérieur et que la MRC, ben, dans le fond, c'est un secret bien gardé et qu'on mériterait de mieux se positionner comme milieu de vie qui est enviable au Québec avec tout son tissu industriel qui est très riche. Voilà pour un résumé des entrevues. Maintenant, déclencheur d'opportunités, positionnement industriel. Fait que sur quoi on va construire puis sur quoi on a basé nos estimations au niveau de l'attraction d'entreprises. Donc, je vous l'ai dit, un tissu industriel riche, diversifié, renforcé par la présence de plusieurs grands donneurs d'ordre. Ça, c'est vraiment caractéristique à votre MRC. Très intéressant. Des créneaux dominants avec des chaînes de valeur qui sont matures, c'est-à-dire que dans un créneau, tu vas avoir la grande entreprise, les sous-traitants, la distribution, le transport, qui sont tous organisés autour de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur, bien matures, bien développées. Entreprise exportatrice en dehors des frontières de la MRC, ça, c'est excellent. C'est de l'argent neuf pour votre région. Donc, quand on a des entreprises qui exportent, on fait entrer de l'argent de l'extérieur chez nous. Très important. Et nouvelles entreprises qui naissent de projets d'entrepreneurs de la région. Donc, vous avez vraiment une capacité entrepreneuriale qui est distinctive. Au niveau des facteurs de localisation stratégique, évidemment, on l'a vu tantôt, il y a quand même une concentration autour de la 277 qui est très facile d'accès. Vous êtes localisé en plein cœur aussi de la vallée de la Plasturgie. Ça, c'est un créneau d'excellence du gouvernement qui s'appelle aujourd'hui Alliance Polymère Québec. C'est un créneau où vous avez plusieurs entreprises. Donc, très intéressant aussi parce que c'est un créneau qui est concentré dans votre région et qui percole partout au Québec. On veut miser aussi sur la présence de grands donneurs d'ordre dans plusieurs secteurs, agroalimentaire, plasturgie, transformation métallique. Quand on a des grands donneurs d'ordre, on est très bien positionné pour attirer des entreprises qui vont offrir des services de sous-traitance, donc la plus petite PME, et éventuellement, ben, impact du projet de troisième lien pour la MRC. Au niveau de la MRC de Bellechasse par rapport aux MRC voisines, ben, vous avez des terrains vacants. Ça, c'est la base, important. Vous avez des infrastructures concurrentielles, notamment long de l'axe 277. Vous avez une position stratégique par rapport aux infrastructures de transport, donc aéroport, port, autoroute 20. Vous avez des programmes d'aide et incitatifs financiers tout autant que ce qu'on peut observer ailleurs au Québec. Et vous avez des parcs industriels où on va retrouver à proximité des services, dans le fond, comme je vous disais tantôt, de restaurants, loisirs, offres immobilières, résidentielles. Donc, les piliers de la stratégie proposée, tantôt, je vous ai présenté 6 créneaux. Nous, à nos yeux, les créneaux où vous avez le plus de chances de matérialiser des opportunités, où vous devriez travailler peut-être plus intensément pour faire de la promotion, pour faire une stratégie d'attraction, d'investissement. Donc, ça tourne autour des créneaux de la transformation agroalimentaire. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le contexte actuel, c'est un créneau où il y a beaucoup d'opportunités. Donc, vous voyez dans mon tableau ici, vous avez le type d'opportunité. Fait qu'au niveau agroalimentaire, deuxième, troisième transformation, B2B, quand je vous parle de B2B, c'est vraiment les sous-traitances. Donc, dans la transformation alimentaire, par exemple, on peut retrouver des sous-traitants spécialisés dans le domaine de la plomberie, adaptée à la transformation agroalimentaire, c'est un exemple. Puis au niveau de la distribution et de la mutualisation aussi d'entreposage, il y a des opportunités, notamment dans le réfrigéré ou le congelé. Autre créneau porteur intéressant, la plasturgie, où on estime que les opportunités, c'est plus en deuxième, troisième et sous-traitance. Transformation métallique, transformation de machines, davantage au niveau de la sous-traitance. Vous avez quand même un bon tissu industriel développé au niveau de la deuxième, troisième transformation, déjà un petit peu moins au niveau de la sous-traitance. Et il y aurait un créneau à explorer au niveau des produits de la forêt et des produits innovants du bois. Vous avez quelques entreprises et on a détaillé, là on n'a pas le temps, mais dans le rapport, là, vous avez des détails plus précis de ces opportunités-là. Donc, c'est très rapide, mais quand même, c'est ce qui nous permet d'évaluer finalement comment on pourrait avoir besoin de superficie. Parce que quand on parle d'attirer des entreprises, selon si on a une entreprise de sous-traitance, de deuxième, troisième transformation, GDO, qui sont les grands donneurs d'ordre, ou de distribution, les bâtiments de superficie, la superficie moyenne des bâtiments va être différente. Peut-être j'ai oublié quelque chose, c'est vrai. En plus de ces créneaux-là, il y a un axe qui est bien important qui est d'attirer de nouveaux grands donneurs d'ordre. On s'entend qu'on ne parle pas d'en attirer 50. Regardez, sur un horizon de 15 ans, on en a mis deux. Fait que ce qu'on a fait, on a estimé à peu près à 2,8 entreprises par année. C'est une hypothèse. On n'a pas de boule de cristal. Mais si on attirait environ 2,8 projets qui sont soit des nouveaux projets, soit des projets d'expansion ou des projets d'agrandissement au sein de la MRC, qui seraient répartis, dans le fond, selon la chaîne de valeur, dans les proportions suivantes qu'on a ici, on aurait besoin d'à peu près 378 000 mètres carrés de terrain. Donc, c'est à peu près un petit peu plus que 4 millions. Et ça, c'est calculé à un coefficient d'occupation du sol de 30 %. Donc, on avait parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, il y a des besoins de consommation de superficie qui sont bien évidents, mais ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur. Est-ce que ça va pour les chiffres? Je passe vite, c'est assez clair. C'est bon. On est rendu au succès pour l'implantation d'un parc industriel régional. On en a parlé. C'est sûr que, comme je vous disais un petit peu plus tôt aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est assurer une répartition plus équitable des retombées économiques directes qui découlent des implantations industrielles. C'est l'idée de base généralement qu'on a quand on veut mettre en place ce genre d'outils-là. Ça repose sur le principe de partage du risque. Donc, nécessairement, les villes, municipalités devront partager et les coûts de viabilisation et par la suite pourront partager une part des revenus de taxation engendrés par les implantations industrielles. On veut aussi optimiser, en faisant ça, l'occupation du territoire. Ce qui est vraiment important de souligner, c'est qu'il n'y a pas de modèle unique, hein? Le parc industriel régional, c'est un outil qu'on peut choisir pour faire son développement industriel, mais il n'y a pas de modèle unique. Il peut se décliner en un endroit, il peut se décliner en quatre pôles satellites. Donc, en quelque part, là, la limite, c'est tout est possible. Donc, c'est vraiment au milieu d'établir le cas échéant, le modèle d'affaires qui va coller mieux à sa réalité. Ça nécessite la création d'un OBNL ou d'une régie intermunicipale. On fait l'explication dans le rapport là, sur la différence, avantages et inconvénients entre ces deux structures-là. Par contre, il y a plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir prendre une décision éclairée et de pouvoir assurer le succès. Donc, les grandes étapes de réalisation, qu'est-ce que vous avez fait? Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on vous présente aujourd'hui? C'est qu'on a validé qu'il y a des opportunités industrielles, clairement. Il y a des besoins en matière de terrain, clairement. Qu'est-ce qui est en cours? Bien, c'est la mise à jour des documents de planification. Fait que ça, on sait que vous êtes en train de faire les mises à jour nécessaires. on a déjà, avec la phase qu'on vient de réaliser, commencé à préciser certains critères qui devront être regardés dans l'évaluation là, de la mise en place d'un parc industriel régional, soit l'accessibilité, les infrastructures et des services de proximité. Par contre, pour pouvoir prendre une décision éclairée, il faut compléter l'inventaire, c'est-à-dire la caractérisation industrielle où on sera capable vraiment d'avoir un portrait juste, non pas de ce qui est vacant, mais qu'est-ce qui est disponible et ce, dans quel échéancier. On a besoin de connaître les coûts. Donc, si on décide d'une superficie X de parc industriel régional, ben, faut voir comment ça coûte la développer. Vous savez très bien que les coûts peuvent être variables d'un milieu à l'autre. Ça dépend vraiment de plusieurs éléments. On veut voir aussi s'il y a un impact sur la zone agricole. Une fois qu'on a ça en main, ben, on est capable de se positionner. En fait, on est capable de valider ça sera quoi notre modèle d'affaires et de pouvoir prendre une décision éclairée politiquement si on veut aller vers ce type de structure-là. Conséquemment, ben, il faudra mettre en place une structure de gouvernance et être en opération. Je pense qu'on arrive... On arrive aux recommandations. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on vous parle? Est-ce qu'il y avait des questions ou ça va? Ça semble beau. Fait que Sandra, je te repasse oui. La parole pour les recommandations.
On va compléter la présentation avec les recommandations suite donc à l'étude qu'on a réalisée. Dans un premier temps, de façon générale, sur le territoire, quoi faire? C'est quoi les actions à poser? Donc, ce qu'on propose, c'est de distinguer donc, les parcs industriels des zones industrielles. Actuellement, les usages sont quand même dilués à travers d'autres usages. Donc, de faire la part des choses entre un pôle moteur structurant d'activité industrielle versus les zones industrielles de commodité, ça, c'est nécessaire de faire cette distinction-là. Bien gérer la cohabitation des usages industriels et résidentiels selon les nuisances. Donc, de par la réglementation, on peut intégrer des normes. Ça peut être des zones tampons, ça peut être des normes au niveau de l'entreposage, au niveau des clôtures, etc. Faire en sorte que les industries aient des répercussions positives sur les composantes résidentielles et commerciales des municipalités. Donc là, c'est d'attirer des travailleurs, attirer de la main-d'œuvre. Donc pour ça, il faut aussi diversifier l'offre résidentielle, diversifier l'offre commerciale et de services également, et mettre en place une stratégie de communication forte afin de promouvoir le territoire. Donc là, c'est vraiment d'attirer les entreprises. Comment faire pour attirer ces entreprises-là, celles qui ont été identifiées comme étant les plus susceptibles de venir s'implanter sur le territoire. Donc ça, c'est de façon globale, générale, sur le territoire de la MRC. Ensuite, on est allé avec les pôles moteurs et structurants d'activités industrielles. Donc, quoi faire aujourd'hui avec ces secteurs-là? Il faut savoir qu'on a identifié qu'il fallait mieux les structurer et mieux les mettre en valeur à l'échelle régionale. Donc, ça, c'est un point important. Et on a vu également que ce sont les parcs et les zones qui se situaient davantage le long de l'axe de la 277. Et on pense, en fait, que la principale expansion des activités économiques sur le territoire de la MRC va se faire le long de l'axe 277. Donc, c'est là-dessus qu'il faudrait davantage mettre peut-être l'emphase. Donc, assurer une desserte suffisante en eau, puisqu'on a des industries au niveau de la transformation agroalimentaire et que ça peut être aussi un facteur problématique. Développer une stratégie immobilière selon les éventuels besoins. Donc, c'est de savoir, de bien connaître en fait les terrains prêts à l'investissement. Qu'est-ce qu'on a sur le territoire pour pouvoir attirer les industries? Travailler sur les milieux de vie et l'accès aux services visant une occupation permanente des sites. Donc là encore, on est plus dans du résidentiel avec une typologie diversifiée, avec des commerces pour pouvoir attirer les nouveaux travailleurs, les jeunes familles, etc. Attribuer une affectation industrielle distincte dans le plan des affectations du schéma d'aménagement, donc qui confirme la vocation des sites. Actuellement, le schéma d'aménagement ne distingue pas les affectations industrielles. En fait, il n'y a pas d'affectation industrielle. Les affectations industrielles, en fait, les industries sont intégrées à l'intérieur des périmètres urbains. Donc, ce serait pertinent de pouvoir faire ressortir en tous les cas les pôles moteurs au niveau des affectations, étant donné que le schéma est en cours de révision, ce sera intéressant de le faire à ce moment-là. Et favoriser un meilleur développement de ces secteurs en diminuant par la même occasion les impacts négatifs par rapport aux autres affectations du sol. Donc là, c'est vraiment de regrouper les activités qui sont compatibles entre elles. Donc, ça, c'est vraiment pour les pôles moteurs et structurants, c'est quoi faire pour le moment. Pour les plus petites zones industrielles qu'on va retrouver dans les municipalités plus au centre de la MRC, donc qu'on appelle des zones industrielles de commodité, c'est bien circonscrire en fait les zones industrielles sur le plan territorial pour garder une certaine vitalité de ces municipalités-là plus petites. Viser une concentration d'établissements industriels de petits à moyens gabarits, donc incluant un certain pourcentage de fonctions subsidiaires nichées en amont ou en aval des chaînes de valeur. Donc là, ça va être d'attirer dans ces zones-là des industries qui vont venir aider les grosses industries, donc que ce soit ça peut être de la recherche, ça peut être de l'administratif, par exemple, des services. Prévoir des usages industriels en considération des particularités de chaque zone, de chaque territoire. Il faut savoir que les zones peuvent être identifiées comme pouvant recevoir des industries plus légères, d'autres des industries liées au transport, certaines qui vont être plus avec des activités de machinerie agricole, d'autres ça va être plus de l'industrie lourde. Donc, essayer de prendre en considération ces particularités-là de par notamment les documents de planification qui sont en cours de révision. Donc, ça, c'était pour le quoi faire. Les cinq actions à poser aujourd'hui, en tous les cas, ce que nous on vous recommande de faire suite à cette étude-là, donc c'est de parachever une caractérisation industrielle complète et détaillée, donc permettant de connaître le vrai potentiel de développement de la MRC par rapport aux estimations de superficie de consommation présentées. On l'a vu tout à l'heure, l'inventaire qui a été fait, c'est vraiment un inventaire de base. Une caractérisation beaucoup plus détaillée de chaque secteur est donc recommandée à ce niveau-là et va nous permettre de voir quelles sont les superficies encore disponibles pour accueillir des industries. Considérer la route 277 comme un axe d'intervention prioritaire étant donné donc les nombreux avantages concurrentiels territoriaux. Il faut savoir qu'il y a une proximité entre la capitale nationale avec la Beauce. On a des services municipaux, on a le gazoduc notamment, donc c'est vraiment des conditions intéressantes. Structurer et catégoriser la fonction industrielle dans les différents documents de planification du territoire, donc reconnaître, comme on l'a dit tout à l'heure, les pôles majeurs, les pôles moteurs et structurants des zones industrielles de commodité. Donc là, on va avoir une hiérarchisation peut-être de ces secteurs industriels-là. Le quatrième point, donc, c'est faire connaître la MRC, s'assurer d'une offre industrielle adaptée afin de pouvoir saisir les opportunités reliées aux créneaux à fort potentiel de développement. Donc là, c'est vraiment de mettre en place les conditions gagnantes. Donc, c'est peut-être de mettre en place un marketing territorial pour attirer les nouvelles industries, d'essayer de tisser des liens avec les acteurs du milieu et puis avoir une offre immobilière qui est adéquate, en fait, pour accueillir ces industries-là. La cinquième et dernière action, donc, c'est de miser sur des milieux de vie complets, de qualité, à proximité des pôles industriels moteurs, donc dans l'objectif de favoriser la venue, la rétention et l'attractivité de la main-d'œuvre qualifiée, mais aussi des industries. Donc, encore là, on est dans une offre résidentielle diversifiée pour tous les budgets, pour tous les types d'employés, de main-d'œuvre, avec des commerces également diversifiés, de la restauration, des commerces de proximité et des services. Donc, une fois que ces cinq actions-là sont posées, on pense en tous les cas que la MRC va être mieux outillée donc, pour amorcer les démarches, si c'est nécessaire, de voir s'il y a mise en place ou non d'un parc industriel régional à ce moment-là. Donc, une fois que ces cinq actions auront été faites et l'ensemble des quoi faire également, vous aurez une meilleure vision d'ensemble, à savoir est-ce que vous partez vers une démarche plus active vers un parc industriel régional. Je pense que ça fait le tour, c'est ça.
Alors, merci. Alors, je ne sais pas si, étant donné qu'on en a discuté à notre séance de travail, mais s'il y avait vraiment des questions complémentaires de façon assez rapide, avant qu'on prenne pour acquis que le rapport a été déposé, on va bien l'analyser et après, on se donnera, parce qu'on a une planification stratégique à voir chez nous. Alors, est-ce que ça sera un élément de notre planification stratégique, on le verra, comment on donne suite à tout ça et surtout par rapport à des échéanciers. S'il n'y a pas de questions, il nous reste à vous remercier encore une fois pour votre présentation.
Merci à vous.
Et si jamais il y a des petites corrections, vous prendrez le temps de le lire. Et si jamais vous avez des petites corrections, ce serait de contacter Louis, comme par exemple ce qu'on a soulevé tantôt par rapport aux routes. Là. S'il y a d'autres éléments dans la présentation qui vous posent une petite problématique, bien, de soulever ça auprès de Louis pour que les corrections soient apportées pour une version finale de votre recherche.
Parfait. Puis j'aurai pour Louis les précisions de concernant la question d'Éric de plus tôt cet après-midi. Puis effectivement, on demeure là. Je pense que dans l'application de tout ça, au niveau du service client, là, Louis, n'hésite pas à nous appeler. Ça nous fera plaisir de répondre à tes questions puis de vous soutenir dans la mise en œuvre.
Je vous remercie.
Parfait.
Alors, merci.
Merci.
Juste une petite chose, juste à préciser que ce rapport-là va être déposé aussi à Développement économique Bellechasse pour qu'eux aussi en fassent une analyse et peut-être des recommandations.
Très bonne idée. Parfait.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.
Bonne soirée.
Bonne fin de rencontre.
On revient à la partie, le point 7, aménagement et urbanisme, avis de conformité, Annick.
Donc, j'y vais avec les conformités. Donc, la première, règlement numéro 20-333 qui modifie le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Charles.
Yvan.
Yves Turgeon.
Donc, règlement numéro 660-20 qui modifie le règlement de zonage et de lotissement de la municipalité de Saint-Henri. J'ai compris Sarto et Bernard.
Bon. Oui.
Donc, le prochain, règlement numéro 173-2014 qui modifie le règlement sur les permis et certificats de la municipalité de Saint-Vallier.
Germain Caron propose.
Guylaine Aubin.
David, seconde.
Germain et Guylaine.
Donc, la prochaine, règlement numéro 349-20 qui modifie le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gervais.
Jean-Yves propose.
Seconde.
Jean-Yves et Luc.
Ben, deux fois que je seconde, hein, personne ne regarde les écrans.
J'y vais au son de la voix qui sort en premier.
Donc, assez rapide sur le piton, David.
Piton est trop allumé.
Dernière conformité, règlement numéro 811-2020, modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Léon.
David, tu es prêt à le proposer?
Non.
Manon propose.
Je t'ai pas assez vite sur le piton.
On va seconder.
Mais je ne suis pas contre.
Merci. Merci. Donc, je cède la parole à Louis pour les prochains points à l'ordre du jour en lien avec l'aménagement.
Directeur du service d'aménagement et d'inspection. Le directeur de service.
Il y a un autre petit point avant, désolé. Avant de passer la parole à Louis pour qu'il s'auto-nomine. Donc, prochain point, dans le fond, en lien avec la dotation du poste là, de directeur au niveau du service de l'aménagement du territoire. Donc, vous avez entre les mains la résolution et la recommandation là, du comité d'aménagement et du comité administratif. On en a discuté en huis clos tout à l'heure, alors j'aurais besoin d'une proposition pour entériner l'embauche de Louis.
Yvan propose.
Yvan?
Oui, Pascal.
Pascal. Alors, félicitations, Louis. Donc, je te cède maintenant la parole pour les prochains points là, pour l'aménagement du territoire.
Parfait, merci. On est tout. Oh, peut-être le 7.3?
C'est ça, aide à aménager sans embauche. C'est-tu lui, Louis, qui le fait aussi? Oui, ça va être Annick qui va revenir.
Désolée, je n'avais pas mon ordre du jour à côté de moi. Donc, vous le savez, là, dans notre plan d'effectif, là, on avait un poste d'aide aménagiste qui était à combler. Donc, la nomination, là, la nomination qu'on vous propose, c'est M. Harris Telesmani, qui est présentement là, inspecteur au service régional d'inspection, qui a l'ensemble des qualifications pour répondre aux attentes de ce poste-là. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un là, pour entériner là, M. Harris sur le poste d'aide aménagiste.
Manon propose.
Manon, Sébastien. Appuie. Sébastien.
Qui va prendre sa place, là? Qui prend sa place?
Ouais. Bien, comme vous l'avez vu dans la résolution, là, on va aller en affichage là, pour son remplacement au niveau de son titre là, d'inspecteur.
C'est beau. Donc, Louis, tu y vas pour les autres points.
Oui.
7.4.
7.4, prolongation de l'entente pour l'aide financière, refonte des plans et règlements d'urbanisme. Ce qu'il y a à savoir là-dedans, c'est qu'on est engagé là, avec le ministère des Affaires municipales avec une subvention pour réaliser la refonte des plans et règlements d'urbanisme là, pour 17 municipalités sur 20. Donc, cette entente-là, normalement, se terminait en décembre 2020. Mais comme vous le savez, là, les plans d'urbanisme avancent bien, mais il nous reste toujours la question de la réglementation à poursuivre. Et suite aux discussions qu'il y a eu avec le MAMACH dans les dernières semaines, ils nous ont accordé un délai supplémentaire pour pouvoir effectuer ce projet-là. Donc, ils nous ont accordé jusqu'en décembre 2021 maximum pour pouvoir faire ce projet-là. Ils nous ont mentionné qu'on avait besoin d'une résolution de la part du conseil de la MRC pour pouvoir entériner cette extension-là.
Martin J. propose.
Christian Sagan.
Annick me fait part que ça pourrait même aller en 2022, mais on va essayer de le faire en 2021. C'est beau.
C'est notre objectif.
7.5.
Oui, 7.5, résolution d'adoption pour le règlement 282-20 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. Vous vous souvenez, on vous avait présenté un premier projet de règlement pour les agrandissements de périmètre d'urbanisation des municipalités de Saint-Vallier et de Saint-Charles-de-Bellechasse, ainsi qu'une correction pour la municipalité de Saint-Anselme. Je vous propose ce soir une petite modification au document qui vous a été déposé la semaine dernière. Je vais aller chercher la modification. Il y a eu des discussions qui ont eu lieu avec la municipalité de Saint-Vallier, la municipalité de Saint-Charles et le ministère des Affaires municipales cette semaine. Et puis, pour ne pas entraver, dans le fond, la date limite de modification pour la correction à Saint-Anselme, il y a eu, dans le fond, je vais vous amener aux deux attendus que qui sont très importants ici. Attendu que la municipalité de Saint-Vallier a décidé de poursuivre sa demande de modification de périmètre urbain dans un règlement ultérieur, car elle souhaite obtenir des précisions écrites supplémentaires de la part du ministère des Affaires municipales relativement à la non-conformité qu'ils ont eue dans le premier projet de règlement. Donc, on a eu nos discussions avec le ministère des Affaires municipales et un règlement sera présenté ultérieurement. On va travailler très fort là, pour pouvoir faire passer ça au ministère des Affaires municipales éventuellement. Et également, au niveau de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse qui souhaite améliorer le niveau de précision de sa demande d'agrandissement pour les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels pour corriger la non-conformité, dans le fond. On sait qu'au niveau résidentiel, tout passait bien, tout allait bien, mais au niveau commercial et industriel, il y avait un rafraîchissement de données à faire. Et puis, je me suis assuré avec le ministère des Affaires municipales qu'on pourrait présenter des projets de règlement d'ici la fin de l'année sans pouvoir tout recommencer, l'ensemble du processus. Donc, dans le projet de règlement qu'on vous dépose ce soir, on a enlevé la municipalité de Saint-Charles, de Bellechasse, ainsi que la municipalité de Saint-Vallier pour ne conserver que la correction de la municipalité de Saint-Anselme.
Donc, ça prendra une proposition d'adoption du règlement. David?
Propose.
David la propose.
Denis seconde.
Denis seconde. Merci. 7.6, c'est maintenant l'adoption du règlement 222-20.
Oui, excusez.
282-20.
C'était dans le fond, ce que vous avez adopté, c'était parce que vous séparez vos résolutions.
C'est correct, c'est les mêmes points, c'est le même règlement. Là.
C'est ça, exactement.
C'est ça, c'est l'inscription du règlement au livre des procès-verbaux. C'est beau. Donc, on serait rendu à 7.7, demande d'avis au MAMACH, règlement 282-20.
Donc, c'est le même principe, c'est qu'on a besoin absolument d'avoir un avis du ministère des Affaires municipales pour adopter un règlement pour pouvoir obtenir une conformité officielle.
Puis il faut Gilles demander Breton par propose. Résolution.
Oui.
Qui propose?
Gilles Breton.
Gilles, qui seconde?
Manon.
Manon. Adoption du document nature des modifications, toujours dans le règlement 222-20, donc c'est conséquent. Qui propose?
Bon.
Yvon. Qui appuie?
Sarteau.
Et enfin, demande d'avis à la CPTAQ utilisation des fins autres que l'agriculture pour un dossier à Arma.
Oui. En fait, comme vous le savez peut-être bien, la municipalité d'Arma a, dans le fond, son parc municipal, le parc des chutes d'Arma. Et puis, ce parc-là est situé en zone agricole. Donc, lorsqu'ils veulent faire autoriser des usages qui ne sont pas normalement autorisés en zone agricole, ils doivent passer par la commission de protection du territoire agricole. Donc, la présente demande est pour une utilisation à autre pour pouvoir faire l'extension du restaurant qui existe déjà à l'intérieur du parc des chutes d'Arma et aussi pour pouvoir faire l'acquisition d'un terrain pour pouvoir aménager un entrepôt pour les motoneiges avec le club de motoneige de Bellechasse. Donc, ça nécessitait dans le fond une conformité avec le schéma d'aménagement pour voir si tout fonctionnait bien au niveau des usages. Et je vous confirme qu'il n'y a rien qui empêche, dans le fond, la municipalité d'Arma de pouvoir procéder à ces deux éléments-là. Donc, on a besoin d'une résolution de la part du conseil de la MRC pour pouvoir l'envoyer à la CPTAC comme de quoi c'est conforme au schéma d'aménagement.
Manon.
Je propose. Manon.
Oui.
Puis Jean-Yves.
Oui.
C'est beau. On est rendu maintenant au point 8, matières résiduelles. 8.1, collecte supplémentaire des déchets. Or, vous avez la résolution entre les mains. Donc, il s'agit c'est une recommandation du comité de gestion des matières résiduelles de mettre fin au service des collectes supplémentaires des déchets. Or, ça prendrait... à moins que je me trompe, une résolution qui va dans le même sens, donc qui abolit le service de collecte supplémentaire. Ça prend un proposeur dans un premier temps et après, il y aura un vote, si nécessaire, sur la proposition.
Denis propose.
Yvon, on appuie.
Vous avez. Est-ce que c'est... quels sont ceux qui sont contre la proposition?
Je vais voter contre, Pascal.
Pascal vote contre. Est-ce qu'il y a d'autres? Donc, adopté majoritairement. Coordonnateur économie circulaire embauche. David, tu nous fais un petit point. Ah non, c'est... Vas-y.
Oui, bonjour. Peut-être vous faire un petit rappel là, lors de la séance de septembre. On vous avait fait un rappel par rapport aux échéances, par rapport, c'est le projet Symbiose Bellechasse et Chemin, donc qui est financé par le Fonds d'appui au rayonnement des régions. Donc, dans ce projet-là, il y avait l'embauche là, au niveau d'un coordonnateur là, en économie circulaire. Les entrevues se sont tenues là, à cet effet-là là, la semaine dernière. Donc, on vous recommande la candidature de M. Claude Plourde pour un salaire annuel là, de 50 000 $ là, à 32 heures semaine. Donc, c'est vraiment un chargé de projet pour les 3 années du projet. Donc, M. Plourde a accepté là, l'offre d'emploi et, dans le fond, sa candidature. Donc, alors, si vous êtes d'accord, on pourrait entériner le tout par résolution pour confirmer l'emploi de M. Plourde au sein là, de ce projet qui est la symbiose industrielle Bellechasse et Chemin.
Qui touche de l'énergie.
Après la proposition.
Hélène. Appuyé par?
Sébastien.
Sébastien.
C'est vraiment un contrat de 3 ans pour cette embauche-là?
Oui. 8.3, modernisation du système de collecte sélective, projet de règlement. David, tu veux nous donner des petits renseignements là-dessus?
Oui, ça va être. Merci Clément, ça va être très bref. Dans le fond, vous avez vu le communiqué là, qu'on a joint dans l'envoi ainsi que ce qu'on appelle le petit tableau de bord là, qui a été publié par le ministère de l'Environnement à l'effet qu'ils sont en train de refondre les 2 règlements en lien avec la consigne et la modernisation de la collecte sélective. Là, la consigne, évidemment, là, c'est la petite somme d'argent là, qui est exigée sur les contenants de boissons gazeuses, entre autres, et de bière. Et dans le cas de la modernisation de la collecte sélective, là, c'est le programme là, du bac bleu, finalement, dans notre région de Bellechasse, mais donc toutes les matières qui sont recyclables. Donc, le gouvernement du Québec a procédé à un dépôt d'un projet de loi là, qui est en cours de révision. Vous l'avez peut-être vu aussi dans les médias dernièrement, là, ils en ont discuté un petit peu. Donc, vous avez vu aussi dans le PV du CGMR que le CGMR a mandaté là, la direction du service GMR à aller chercher les informations, possiblement avec une rencontre avec les intervenants de Recycle Québec. Donc, c'est juste pour tenir le conseil là, informé là, qu'il y a des démarches qui sont faites au niveau du CGMR pour éventuellement faire rapport au conseil là, des changements puis des impacts que ça pourrait avoir, parce que vous savez qu'on est une des rares MRC qui collecte nous-mêmes avec notre flotte de camions là, ces matières-là. Donc, ça nous met dans une situation un petit peu particulière par rapport à, je vous dirais, la majorité des municipalités au Québec. Et c'est pourquoi là, on a cru bon, là, avec le CGMR, d'aller au-devant un peu des démarches là, puis de vraiment être au fait des impacts que ça pourrait avoir sur les mécanismes de financement et autres paramètres avec ces règlements-là.
Donc, c'était un point d'information.
Exact.
8.4. Bellechasse, zéro plastique, refus de la demande?
Encore une fois, c'est juste un point d'information, point de suivi. Vous avez vu donc dans votre documentation que le dépôt du projet de Bellechasse, zéro déchet plastique 2021, donc la campagne de sensibilisation qui avait été prévue en lien avec la réduction du plastique, qui visait là, différentes initiatives avec ça, avait été déposé à Recycle Québec. Ils nous ont donné la réponse, là, comme vous voyez dans le courriel là, qui nous a été acheminé, comme quoi que dans le cas actuel du programme, malgré la qualité du projet, là, dans le fond, là, l'analyse a fait en sorte que notre projet présentement n'était pas retenu. Par contre, si vous voyez aussi, il semble laisser une porte ouverte comme s'il y aurait des enveloppes additionnelles qui étaient rendues disponibles, notre projet pourrait être reconsidéré. Donc, pour l'instant, finalement, on comprend que le projet n'est pas accepté, mais qu'il reste une possibilité, là, justement, avec les changements au niveau du ministère, que c'est possible que ce projet-là puisse être réactualisé. Mais donc, pour l'instant, on comprend que ce volet-là n'ira pas de l'avant. Là.
Merci, David. On serait maintenant rendu à point 9. Administration, correspondance.
Donc, oui, donc un bref survol là, des correspondances reçues au cours du mois. Donc, première correspondance qui nous provient de la municipalité de Saint-Léon. Donc, pas la municipalité, mais d'un groupe de citoyens. Là, c'est une lettre qui accompagnait le dépôt d'une pétition qui a été déposée en lien avec l'enlèvement du banc de gravier situé à la jonction de la rivière Etchemin et de la rivière du ruisseau de l'eau chaude. Donc, c'est le dépôt de la lettre qui accompagnait la pétition. Donc, deuxième correspondance qui nous provient de développement économique. Cette résolution-là, on en a discuté avec Madame Lachance tout à l'heure, là, en lien avec la desserte mobile et Internet haute vitesse. Troisième correspondance qui nous provient là, du ministre responsable des aînés des proches aidants. Donc, c'est pour nous signifier là, que la municipalité régionale de Comté a le titre là, de municipalité amie des aînés, et ça pour la durée de son plan d'action 2020-2024. Donc, c'est suite à l'adoption de notre politique famille aînée. Là, donc, c'est la lettre officielle là, qui nous désigne comme municipalité amie des aînés. Ensuite, correspondance numéro 4 qui est en lien avec toute la formation en lien avec les pompiers là, et les montants qu'on reçoit là, pour justement là, pallier à les dépenses encourues par rapport à cette formation-là. Prochaine correspondance qui nous provient de la municipalité de Honfleur en lien avec les cours d'eau pour la signature de l'entente. J'ai une rencontre avec vos DG la semaine prochaine. Je vais faire un rappel aux municipalités là, qui ne m'ont pas encore fourni là, cette résolution-là pour qu'on soit en mesure de procéder à la signature de l'entente. Donc, je vais m'occuper de faire les suivis nécessaires avec vos directions générales. Ensuite,
j'avais une question.
Oui.
Au niveau de l'entente des cours d'eau, là, y a-t-il bien des municipalités qui n'ont pas que l'entente n'est pas signée?
Parce que là, dans le fond, j'attends d'avoir l'ensemble des résolutions des municipalités justement pour procéder à la signature de l'entente. Il m'en manque quelques-unes, donc je vais faire un rappel à la rencontre de DG la semaine prochaine.
On est-tu concerné? Moi, je pose la question. On est-tu concerné là-dedans, nous autres, là? Parce que je veux savoir.
Du côté de Saint-Raphaël, c'est fait.
C'est fait?
Oui,
c'est fait.
OK, c'est bon. Ils ont passé ça en septembre, comme ça.
Oui, ça fait quand même un petit bout. Julie était encore en poste quand ça a été fait.
OK, c'est beau.
C'est bon. Donc, prochaine correspondance qui nous provient de la municipalité de la Durantais, également en lien avec la signature ou en lien avec les cours d'eau. Correspondance numéro 7 qui nous provient de la municipalité de Saint-Damien, même chose, en lien avec la signature, là, en lien avec les cours d'eau. Prochaine correspondance qui nous provient de la municipalité d'Honfleur là, pour la résolution en lien avec la route verte. Là, vous savez, on en a eu quand même quelques-unes là, le mois dernier, donc c'est la suite ce mois-ci. Correspondance numéro 9 qui nous provient également de la municipalité d'Honfleur là, au niveau de la nomination de personnes désignées qui n'avaient pas été encore fait là, du côté de la municipalité. Donc, maintenant, c'est fait. Correspondance numéro 10 qui nous vient du CIS Chaudière-Appalaches en lien avec l'aide au niveau de la MRC qu'on leur a donnée là, pour l'installation là, de la clinique mobile là, sur le terrain de la MRC, la coordination dans ce dossier-là. Ensuite, correspondance numéro 11 qui a été déposé là, en lien, c'est la Sûreté du Québec, là, c'est M. Sergent Benoît Giguère qui a déposé cette correspondance-là en lien avec l'encadrement concernant les chiens. Donc, c'est pour réitérer là, son appui là, dans l'application là, de cette nouvelle réglementation-là, l'appui au niveau des municipalités pour l'application là, de ce nouveau règlement-là. Ensuite, dernière correspondance, donc c'est vraiment un communiqué de presse là, qui a été mis par la MRC en lien avec le lancement des politiques famille aînée. Donc, c'était pour vous mettre au courant pour que vous l'ayez là, en main.
Alors, merci Annick pour la correspondance. On serait maintenant rendu au point 9.2, Maison de la culture. Ça donne suite à une recommandation du comité administratif et aussi à la rencontre qu'on a eue avec des représentants de la Maison de la culture et M. Claude Lepage en septembre, où on est venu nous présenter ce qu'était la Maison de la culture, mais aussi une demande de financement supplémentaire. On nous demandait que l'allocation de 12 000 $ passe à 20 000. Vous avez une recommandation dans ce sens-là du comité administratif qui dit de bonifier de 8 000 $ et de faire passer la contribution de la MRC à 20 000 $ au lieu du 12 000 actuellement, que cette bonification soit pour une période de 5 ans, puis que le montant versé annuellement pour une période de 5 ans soit pris à même le volet 2 du FRR. et que le versement de l'aide financière soit conditionnel au maintien des actifs par la Maison de la culture de Bellechasse, parce que là, on parlait de déménagement ou encore relocalisation. Or, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à proposer ça? Parce que
j'ai une question.
Oui.
Yves, bonjour. La Maison de la culture demande 12 000. Elle le demande depuis l'année 2012. Et puis là, bon, on s'apprête. En tout cas, une recommandation pour lui accorder 8 000.
De plus.
Il me semble que, enfin, on aurait peut-être pu respecter le 12 000. Parce qu'on est en 2020, ça fait déjà 8 ans qu'ils nous demandent ça. J'imagine que c'était appuyé par des besoins là, derrière ça.
Donc, toi, ce que tu dis, c'est qu'on devrait maintenir le 12 000 et pas donner d'augmentation à la Maison de la culture?
Non, du tout. C'est qu'ils nous demandent 12 000, je crois.
Non, ils nous demandent 20 000. Donc, 20 000, une augmentation. Ils nous demandent 8 000 de plus. Puis c'est ce que recommande le comité administratif.
C'est beau,
on
c'est
a
correct.
Besoin de le savoir pour justement la préparation des budgets.
C'est correct, c'est beau.
Manon propose.
Yves Seconde, c'est beau.
Le vote est demandé.
Est-ce qu'il y a opposition à cette résolution-là?
Je m'oppose. Je pense qu'on aurait pu avoir une réflexion un peu plus globale sur une politique culturelle parce que là, finalement, on accorde ça, mais il y a d'autres industries culturelles dans la région qui auraient mérité. Je m'oppose parce que ça a été. Ça manque un peu de substance pour une vision régionale.
Juste à rappeler, Éric, qu'on a déjà une politique culturelle, puis on a déjà un fonds pour les projets. Or là, c'est vraiment un fonds dédié à la Maison de la culture pour un projet spécifique. Mais on a une enveloppe, dans le temps, c'était pratiquement 60 000 $ qui était mis dans l'enveloppe des projets culturels annuellement. Et ça, c'est toujours là, parce qu'on avait une partie, je pense, c'est 2/3 par le gouvernement et 1/3 par la MRC pour financer ce fonds culturel-là global.
Je comprends ça, Clément, mais pourquoi qu'on ne pige pas même le fonds culturel pour aider la Maison de la culture?
Parce que ce projet-là n'est pas admissible dans les projets culturels. Le fonds culturel, c'est vraiment des projets annuels pour des activités culturelles qui ne sont pas nécessairement récurrentes.
Je m'objecte quand même.
Tu t'objectes? C'est beau.
Juste un petit commentaire, Clément.
Oui, Bernard?
Au niveau de la Maison de la culture, là, elle a un rayonnement autre que de la MRC de Bellechasse. Quand on parle régional, là, c'est oui, la MRC de Bellechasse, il s'agit juste de l'utiliser puis d'y aller parce qu'elle rayonne même à l'extérieur de la MRC de Bellechasse.
Oui. Donc, il y a eu une proposition qui a été adoptée majoritairement avec une abstention, un vote contre. C'est bon? Je ne me trompe pas? Fait qu'on va passer à l'autre point. Entente service de proximité.
Dans le fond, peut-être pour faire un petit récapitulatif au niveau de l'entente service de proximité, vous savez que la MRC de Bellechasse est gestionnaire de cette entente-là. C'est vraiment une entente qui a été conclue dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions où 9 MRC là, de la Chaudière-Appalaches sont participantes à cette entente-là pour un montant de 80 000 $ qui est disponible par territoire de MRC. Donc, étant gestionnaire de l'entente, chaque MRC doit adopter le cadre de gestion qui est proposé et également le comité qui, justement, va s'occuper de recevoir l'ensemble des projets et faire la recommandation au conseil pour les projets qui seront entérinés. Donc, c'est ce qu'on vous dépose aujourd'hui. Vous voyez la résolution qui a été adoptée par le comité administratif pour l'adoption du cadre, ce qui va nous permettre d'aller en appel à projet dès vendredi pour justement recevoir les projets en vue de soutenir certains projets au niveau des services de proximité en fonction des critères qui ont été établis dans le cadre de gestion.
Des questions?
Est-ce que vous avez des questions?
Oui, j'aurais une question. Je me questionnais par rapport à la composition du comité en lisant l'ensemble des documents. On voit que c'est quand même un fonds qui pourra rejoindre plusieurs organisations du territoire dans différents secteurs d'intervention en matière de services de proximité. Puis je trouvais que le comité de sélection était très à l'interne de la MRC. Là, est-ce que ça aurait été utile d'avoir une représentation plus variée au niveau des différents secteurs dans lesquels pourraient subvenir des projets.
Étant donné que le cadre est adopté par la MRC, que les sommes sont disponibles via les MRC, c'est une orientation régionale qui a été prise là, à l'effet que les comités sont formés là, vraiment avec les gens qui sont à l'intérieur de la MRC. Là. C'est vraiment une orientation régionale dans les 9 MRC là, sur le territoire.
C'est un peu comme c'est un peu comme l'ancien pacte rural. Tu as un comité technique qui analyse les projets et qui font une recommandation par la suite au conseil de la MRC qui aura à approuver ou à prendre la décision finale. Mais c'est une analyse, c'est un comité d'analyse technique.
Merci.
Vous avez vu là, dans les documents que j'ai déposés, là, vous avez les grilles d'analyse de projet en fonction des critères qui ont été établis, donc qui va servir de base là, aux 9 territoires d'MRC. Donc, c'est vraiment là, un cadre qui est quand même assez rigide au niveau là, de la cotation, au niveau des projets qui vont être déposés.
Au moment où on se parle, là, les membres du comité ne sont pas formés encore?
Oui, ben vous avez les noms. Ce n'est pas les noms, mais les postes des gens au niveau du comité technique. Là. C'est en grande majorité là, les agents de développement là, au niveau de la MRC et moi-même.
Ah, OK. Ben non, mais c'est parce que dans la correspondance, on ne le voit pas. Là.
Oui, ben c'est dans le document, c'est dans le cadre de gestion.
Il faut que tu lises tout le document, Gilles.
C'est à la page 3 du
cadre de gestion. Ah, oui, OK, en annexe, c'est bon. C'est bon. Okay.
C'est bon. C'est beau?
Oui.
Donc, on serait rendu maintenant, parce que l'entente, ça a été approuvé par le CA, le 9-4, directeur de services infrastructure. Dominique?
Oui, donc, bonjour. Vous avez vu là, dans l'envoi là, qu'il y avait une recommandation du comité administratif là, concernant l'embauche du directeur du service infrastructure. Vous avez vu aussi que c'était suite au fait que le poste de direction générale adjointe que j'occupais aussi était... Aussi, là, j'occupais deux postes, autant la direction de l'infrastructure que la direction générale, puis qui avait été recommandé par une analyse organisationnelle là, qu'il fallait qu'on nomme un directeur du service infrastructure indépendant pour qu'on puisse se consacrer à chacun nos tâches respectives. Il y a un comité de sélection qui a été mis en place. Puis on vous, avec le comité administratif, on vous recommande l'embauche de M. Didier Saint-Laurent dans une classe 10 à l'échelon 0. Puis que M. Saint-Laurent là, fasse l'objet d'une période d'approbation d'un an avec un plan de développement là, selon son profil de candidat.
Je propose. Pascal.
Sébastien appuie.
Pascal et Sébastien. On est maintenant rendu planification stratégique suivie. Je demande à Annick de faire un suivi.
Oui, dans le fond, au niveau de la planification stratégique suivie, juste pour ne pas oublier la rencontre qui est prévue mardi prochain, le 27. Donc, vous allez recevoir la documentation en vue de cette rencontre-là là, demain au plus tard en fin de journée. Donc, toute la documentation de préparation pour la rencontre de planification stratégique. On est prêt. Les documents sont prêts. Donc, la rencontre va se tenir en Zoom. Donc, avec une nouvelle stratégie technique de Zoom, là, il va quand même avoir du travail en atelier qui va se faire. Donc, vraiment, là, il y a tout un comité technique là, en arrière de tout ça pour vous permettre là, de passer la plus agréable journée possible. Je vous dirais qu'on a un beau plan de match pour cette journée-là. Vous allez la recevoir, comme je vous disais, là, demain. Mais c'est certain que nous, on a déjà formé des sous-groupes pour les ateliers. Donc, c'est certain que j'ai besoin de votre présence mardi prochain parce que le fait qu'une ou deux personnes ne soient pas présentes fait que les groupes sont débalancés, puis certains enjeux, là, il va y avoir moins de gens là, pour justement les discussions. Donc, si jamais vous êtes vraiment dans l'impossibilité de vous présenter à cette journée-là, j'aimerais ça en être informé à l'avance, là, justement, pour ne pas débalancer les groupes là, on va avoir les discussions par rapport aux différents enjeux qui vont être identifiés.
Alors, merci, Annick. Peut-être rapidement, parce que parfois, quand on redemande ça. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent ne pas pouvoir être présents?
J'aimerais ça savoir c'est quoi l'horaire de mardi prochain. À partir de quelle heure?
8h30 à 16h30.
Voilà. 8h30 à 16h30, mardi prochain.
Oui.
J'imagine qu'on dîne en 20 minutes.
Non, on a une heure pour dîner. Autre question?
Moi, je voulais savoir.
Excusez, c'est...
Oui, Sébastien.
Dans le fond, je voulais savoir, je comprends les restrictions et tout, mais vraiment, il n'y avait pas lieu de trouver une salle qui aurait pu nous accueillir les 20 en respectant la distance et ainsi de suite. C'est-tu les travaux en atelier qui fait en sorte que là, c'est plus compliqué?
C'est l'ensemble de l'œuvre, Sébastien. C'est le grand groupe, plus qu'une vingtaine de personnes, puis après ça, de retravailler en atelier. Mais c'est aussi l'exemple qu'on donne à nos citoyens. Alors, c'est tout ça, là. Mais en tout cas, pour avoir participé à un brainstorming là, sur l'organisation, je peux vous dire que le résultat me semble, en tout cas, va être à la hauteur de nos attentes.
Parfait. Allons-y.
C'est bon? Orientation budgétaire, embauche d'un spécialiste en ressources humaines. Dominique?
Et comme on disait un peu plus tôt, là, suite à la remise d'un rapport d'analyse organisationnelle là, qui ciblait certaines faiblesses là, dues à une surcharge de travail, puis un besoin en communication, puis aussi certains besoins en gestion des ressources humaines. Bon, vous avez vu là, la recommandation du comité administratif qui recommande, dans le fond, l'embauche d'une personne en ressources humaines pour la prochaine année budgétaire. Donc, on vous recommande cette embauche-là.
On a eu une discussion sur le sujet. Or, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? Alors, Manon? Oui, tu proposais, Manon?
Oui, oui, c'est ça.
C'est beau. Alors, Manon propose qui? Jean-Yves?
Oui.
Jean-Yves seconde.
Le vote est demandé, Clément.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Hein?
Le vote est demandé. Le vote est demandé.
Le vote est demandé. Le vote est demandé. Quels sont ceux qui sont... On va commencer, c'est peut-être plus facile, compte tenu du vote indicatif. Quels sont ceux qui sont contre?
Yvon.
Breton, Gilles.
Yvon, Éric, Gilles.
Oui.
Il n'y en a pas d'autres? C'est beau, c'est noté. On est rendu au point.
On peut-tu motiver notre point négatif là-dessus? Moi, je trouve qu'au niveau de l'encadrement, on ne savait pas dans un premier temps si ça prend un technicien, un directeur, un conseiller. Fait que c'est pas prévu aussi au niveau budgétaire. Ça fait que moi, c'est pour ça que je m'objecte.
Ben, écoute, on a dit tantôt qu'on allait mieux définir. C'était une orientation, mais il n'y a pas d'impact sur le budget 2020. Il faut se rappeler que c'est une orientation qu'on se donne pour la préparation du budget 2021. Il faut bien comprendre ça, là.
C'est bien correct.
C'est bon? Alors, point suivant. Orientation, non, bâtiment autoroute 20. Notre bureau touristique de Saint-Michel.
Donc, comme vous avez pu constater là, dans la recommandation du comité administratif, là, le bâtiment de l'autoroute 20 là, qui appartient à la MRC de Bellechasse. Là, qui
excusez-moi, j'entends à peine Dominique.
Approche-toi, Dominique.
Est-ce que vous m'entendez mieux?
Oui. Merci.
Donc, comme vous avez pu voir là, la recommandation du comité administratif concernant le bâtiment sur l'autoroute 20, qui appartient à la MRC, là, qui est située là, à l'halte routière en direction est près de la Durantais. C'est un bâtiment qui est inoccupé, puis que ça fait quand même un usage fréquent. Ce n'est pas fréquenté souvent. Donc, le comité administratif s'est penché sur l'utilisation de ce bâtiment-là et son état. Puis on en recommande d'en faire un avis public pour l'offrir là, à ceux qui auraient de l'intérêt pour obtenir ce bâtiment-là. C'est un bâtiment qui se déplace difficilement.
Donc, dans un premier temps, on demande une proposition d'offre. Alors, qui
propose?
David? C'est déjà proposé. C'était à titre d'information, David.
Ah, OK.
C'est une résolution officielle qu'il faut passer?
Non, c'est déjà.
C'est fait. OK. On est amené un petit peu. C'est dans le fond, c'est à juste d'aller en appel d'offres. Vous aurez une décision à prendre lorsqu'on recevra les propositions. Ça se peut qu'on n'en ait même pas, on va voir, compte tenu que ce que vous a dit Dominique, il est difficilement déplaçable, mais il peut l'être. Peut-être des gens en proximité pourraient avoir un certain intérêt, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas fixer de coût, parce qu'on avait déjà tenté et il n'y avait pas personne d'intéressé à nous soumettre à un prix parce qu'on avait donné un ordre de grandeur à l'époque. C'est beau?
J'ai deux questions peut-être, Clément. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller à... Si le bâtiment est en mauvais état, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se donner la peine? Saint-Michel a une certaine expérience en déménagement de bâtiment récemment, là, puis...
On pensait que tu voudrais le déménager, Eric.
J'ai déjà répondu. J'ai pris les devants en passant. Là, j'ai déjà dit à la MRC que non, la récente expérience nous prouve que ça ne vaut pas la peine. Là. Je tiens juste la réserve que n'oubliez pas de demander un permis de démolition là, quand vous allez le démolir. Là. On vous attend là-dessus.
Il faut comprendre aussi qu'on a une entente avec le ministère des Transports parce que nos services, on les prend de l'autre bâtiment à côté. Là. Alors, il y a toute une série de choses à régler.
Si vous avez besoin d'aide, vous nous appellerez à Saint-Michel. On commence à les connaître tout aussi. C'est correct.
Sûrement. Mais une chose que je veux préciser, là, c'est que le bâtiment, il n'est pas si mal. C'est surtout sur le principe de pouvoir le déménager et à quel coût. Parce que l'intérieur, là, il n'est pas si endommagé que ça. Là. En tout cas, on va voir s'il y a des propositions qui vont nous être formulées. C'est beau? Projet local FDT, Annick.
Donc, projet local FDT, là, c'est vraiment en lien avec les projets locaux. Donc, le projet est en lien avec la municipalité de Sainte-Claire, en lien là, avec les enseignes là, dans la municipalité. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire pour justement la signature des protocoles d'entente.
Propose, Yvon.
Seconde, David.
Annick, quand tu parles, on ne comprend presque pas, là. C'est pareil, même si vous êtes trop loin du micro. Là.
C'est bon, je vais me rapprocher. Est-ce que c'est mieux comme ça? Parfait.
Hey, j'ai une question, M. Filion.
Oui.
Concernant la FDT, là, c'est-il la même FDT qu'on connaissait dans le temps?
Oui, c'est que dans le fond, la municipalité de Sainte-Claire a fait un petit changement. Là. C'est un projet qui avait déjà été déposé au départ. Donc, c'est vraiment l'ancien FDT. Et il y a le nouveau FRR volet 2, mais c'est vraiment une demande qui est dans le cadre du FDT, là, l'ancien budget. Oui.
Merci.
Maintenant, abolition de poste 9.9, Alic.
Donc, comme on en a discuté là, au huis clos, il y a trois résolutions à adopter en lien avec l'abolition du poste. Donc, la première résolution est en lien avec l'entente de fin d'emploi. Je vais en faire la lecture étant donné que vous ne l'aviez pas de façon, là, il y a eu certains changements suite à l'envoi de jeudi dernier. Donc, première résolution en lien avec l'entente de fin d'emploi. Attendu que l'employé 84 au registre de paye de la MRC de Bellechasse ne rencontre pas les exigences requises pour le poste d'évaluateur stagiaire. Attendu qu'il y a lieu d'un commun accord de mettre fin au lien d'emploi existant entre l'employé et la MRC, attendu que le souhait de la MRC et de l'employé est de convenir des modalités de fin d'emploi. En conséquence, il est proposé que le conseil de la MRC de Bellechasse mette fin au lien d'emploi existant entre l'employé portant le numéro 84, que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la MRC l'entente de fin d'emploi.
Proposeur et secondeur?
Je vais le proposer, Clément. Gilles Breton.
Appuyé. Luc.
Donc, maintenant, la deuxième, qui est en lien avec l'abolition du poste d'évaluateur stagiaire. Donc, attendu que le poste d'évaluateur stagiaire est vacant, attendu que le poste d'évaluateur stagiaire ne répond plus aux besoins du service d'évaluation de la MRC, attendu qu'il est opportun d'abolir le poste d'évaluateur stagiaire. En conséquence, il est proposé que le conseil de la MRC procède à l'abolition du poste d'évaluateur stagiaire.
Proposeur?
Propose.
Jacques Bruno propose. Qui c'est donc? Martin J.
Donc, troisième résolution pour l'ouverture du poste de directeur du service d'évaluation. Donc, attendu que le directeur du service d'évaluation prévoit quitter pour la retraite en 2021, attendu la volonté de la direction générale de procéder à l'ouverture du poste de directeur du service d'évaluation et de faire appel à une firme de chasseurs de tête pour les assister dans le processus de recrutement et d'embauche. En conséquence, il est proposé que le conseil de la MRC de Bellechasse autorise la direction générale à procéder à l'ouverture du poste de directeur du service d'évaluation et de faire appel à une firme de chasseurs de tête pour les assister dans le processus de recrutement et d'embauche.
Germain Caron propose.
Germain. Yvon l'appui.
J'ai peut-être un commentaire sur la résolution. Est-ce qu'on ne doit pas mettre un maximum dans le mandat de chasseur de tête? Là? Vous avez une certaine expérience. Je pense que c'est bien de limiter le montant accordé au mandat. Je ne sais pas si les gens sont d'accord avec ça. Là.
Ce serait quoi le montant que tu voudrais mettre, Éric?
Ben, écoutez, par expérience, vous en faisiez plus que nous. Là, quoi, 15 000, 16 000, je ne sais pas. Là, vous pensez mettre combien pour... Je pense que ce serait Annick bon d'être content.
Annick me fait part que ta suggestion à 15 000, c'est acceptable. C'est dans l'ordre de grandeur.
Je pense que ce serait bon de l'inclure dans la résolution.
On peut-tu mettre aux environs de 15 000 pour pas que s'il y a un 500 piastres de plus? Là,
environs de 15 000? Allons à 16 000?
Allons à 16 000. Je me rallie à ça. C'est beau.
Merci.
Alors, on est rendu au point 9.11, donc c'est 9.10. Aide financière dans le cadre de la pandémie, c'était notre fameuse résolution pour demander que les MRC aient aussi accès à la fameuse subvention qui est accordée aux municipalités locales pour qu'on puisse aussi l'acheminer à la FQM pour appui.
Propose.
David?
Oui, propose. Denis, propose. Second.
Denis, oui, si on veut. C'est beau. Alors, on fera parvenir la résolution. Le PADF demande.
Il n'y a pas le 9.11 avant?
9.11, dans le fond, en lien avec le projet là, d'opposition à l'article 81. On en a fait discussion avec Mme Lachance lors de notre dernière rencontre. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes toujours d'accord à adopter cette résolution-là ou la rencontre avec Mme Lachance a fait que vos positions ont changé à cet effet-là?
J'ai peut-être un mot à dire. Moi, honnêtement, je rejetterai le projet de loi en entier. C'est un projet de loi qui est attrape-nigaud, qui est omnibus. Et si vous boquez seulement sur l'article 81, moi, j'en ai à peu près une quinzaine d'articles là, qui m'insurgent, notamment sa fiscalité municipale. Alors, moi, je n'irai pas voter pour une résolution qui rejette seulement l'article 81. Je vais rejeter le projet de loi complet.
Est-ce qu'il y a d'autres qui partagent? Parce qu'on s'en va dans un milieu qui est un petit peu plus complexe, ça, le projet de loi global, tandis que ce dont on nous avait informé puis qui posait une problématique plus directe aux municipalités, c'est le droit de pouvoir décider en aménagement du territoire et relativement au zonage dans nos municipalités. C'est ça qui frappait surtout. Or, c'est la résolution en appui à une demande qui nous a été formulée par notre union, la FQM. Vous avez eu la même demande dans vos municipalités. Je sais que déjà, il y a beaucoup de municipalités qui l'ont adopté et on demandait aussi aux MRC de le faire. Donc, commençons par ça. Et si on veut aller plus loin, ben, je pense que là, il y a une proposition de dire qu'on pourrait rejeter l'ensemble du projet de loi 67, qui est un projet de loi omnibus. Donc, dans un premier temps, dans l'esprit du projet de résolution que nous a soumis la FQM, de s'opposer au moins à toute la question là, des Airbnb et du contrôle réglementaire par le zonage de ces établissements-là. Est-ce que vous êtes d'accord à passer la même résolution qui nous a été soumise dans nos municipalités? Qui est prêt à propos? Bernard propose.
Oui.
Secondes.
Guylaine.
Yves. Ah, il y avait Yves aussi.
C'est correct.
On va y aller avec Yves. J'ai vu le premier Yves. Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Oui?
Moi, je compte.
T'es contre? C'est
contre,
bon?
Contre la résolution telle qu'écrite.
Telle qu'écrite, parce que tu aurais voulu l'ensemble du projet. C'est bon?
C'est ça.
On a bien compris. Là, on est rendu au PADF. PADF.
Oui. Donc, le PADF qui est plan d'aménagement durable des forêts. Donc, le PADF, c'est un projet qui est régional, qui est piloté par la MRC de Montmagny. Le PADF prend fin là, le 31 mars 2021. On n'a pas eu d'orientation à l'effet qu'il serait renouvelé là, pour les années futures. Donc, c'est une résolution justement pour venir, de venir demander que ce projet-là là, soit reconduit là, pour les prochaines années. Je vous dirais que ce que ça apporte au niveau de la MRC de Bellechasse, c'est ça nous permet la réalisation de certains projets, surtout dans le secteur là, du parc régional. Et on a aussi eu un dossier en lien avec la caractérisation des friches qui s'est faite via ces sommes-là. Donc, les montants qui sont disponibles au niveau des MRC, là, ça nous amène à être en mesure de faire certains projets là, en lien avec tout ce programme-là. Donc, voilà.
Qui est prêt à proposer?
Christian propose.
Daniel Seconde.
Puis Daniel?
Oui.
C'est le même projet de résolution qu'on a ici, là, actuellement, au niveau de la...
Oui.
Du projet comme tel, oui.
Oui. Ça te va?
Oui, oui, c'est bon. C'est bon.
C'est beau. 9.13, déclaration commune de service.
Donc, déclaration commune de service, là, vous l'avez vu passer, là, c'est en lien avec une demande de la FQM là, pour que, dans le fond, c'est une certaine, pour qu'une certaine visibilité soit accordée là, à nos organismes de développement économique, que ce soit là, au sein de la MRC ou lorsqu'elle est déléguée là, à un organisme, un OBNL. Donc, c'est vraiment là, pour la mise en place d'initiatives qu'on appelle le réseau PME. Donc, je vous ai mis là, l'ensemble de la documentation qui était disponible. Donc, ça nous permet là, de s'afficher avec un certain logo lorsqu'on rejoint là, la déclaration commune de service.
Donc, ça prend-tu une résolution?
Je vais en faire la résolution, Clément.
Oui. Oui, et Guylaine appuie. C'est bon. Oui. Alors, Gilles et Guylaine.
Petite question.
9-14, oui.
Le développement économique, avais-tu pris, avais-tu regardé cette résolution?
Oui, bien, dans le fond, Alain était à la rencontre.
Alain était à la rencontre quand ça a été soumis.
C'est bon.
Sûrement qu'il va peut-être le ramener au prochain CA de développement économique de vendredi. Alors, on est rendu à la commission d'accès à l'information 9-14.
Donc, commission d'accès à l'information, dans le fond, c'est pour octroyer un mandat là, à M. Martin Bouffard là, pour nous représenter au sein de la commission d'accès à l'information le 7 décembre prochain là, dans un dossier d'accès à l'information.
Éric propose. Ben, Éric Seconde.
Puis Éric Seconde. On est maintenant rendu à 9-15, personne désignée.
Oui, dans le cadre du dépôt qui était du projet là, en lien avec la coopération là, en loisirs. Donc, il faudra entériner une petite résolution là, pour m'autoriser, moi et Clément, à signer le protocole d'entente là, avec le ministère des Affaires municipales. Donc, il manquait ce petit volet-là. Donc, j'ai eu un suivi là, de la part du ministère. Donc, ça prend une petite résolution pour autoriser moi et Clément à signer les documents relatifs à cette demande-là.
Proposition?
Gilles Breton.
Gilles, appuyé par... J'ai vu... Qui? J'ai vu Yves. Oui, Yves, c'est beau. Maintenant, on serait rendu dans Varia, Saint-Henri 3D. Très beau projet. À toi de nous vanter ça, Germain.
Ben, c'est ça, ne vends pas mon punch. Ça fait que... en deux volets. Premier volet, c'est d'inviter tous mes confrères et consœurs à aller regarder Saint-Henri 3D. C'est une visite virtuelle de notre église. Puis sans être chauvin, là, on a une des plus belles églises de Bellechasse. Et le projet là, en 3D révèle vraiment là, tous ces aspects-là. C'est sur le site qu'on appelle c'est Patrimoine religieux Bellechasse. Et on peut faire là, vraiment là, la visite virtuelle de toute l'église. C'était un très, très beau travail de fait par l'équipe de la MRC. Puis l'équipe du laboratoire d'enquête ethnologique et multimédia. Je l'ai bien dit, Clément.
Oui, c'est correct aujourd'hui.
Fait que je vous invite, un, à aller le visiter. C'est très, très, très bien fait. Puis deux, bien, c'est de remercier la MRC là, qui avait participé financièrement à ce projet.
Alors, je vous je vous demande d'aller visiter ça. Ça en vaut vraiment la peine. Alors, on aurait passé à travers l'ordre du jour. S'il n'y a pas d'autre chose, ça prendrait une proposition pour la levée de l'Assemblée.
Éric propose.
Donc, la présente Assemblée est levée et tu peux arrêter l'enregistrement. Merci, bonsoir.
Merci. À tout le monde.
Bonne nuit.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir. Bon, un peu là. Veuillez qu'on ferme cette.